Michel Poitevin, il n'est pas creep. Non, il est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Creep, ça veut dire quoi? Étrange, un peu louche. Mais ça n'a rien à voir avec vous, Michel. Ça va?
C'est pas un compliment.
Non, pas vraiment.
Creepy.
Non. Alors, un pot-pourri de nouvelles, mais en lien quand même avec ce qui se passe dans l'actualité, évidemment. Où en sommes-nous, Michel, avec la situation tarifaire? Parce qu'il est dur à suivre.
Ça prendrait un agenda électronique ou plus pour suivre où il s'en va. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne parle que de tarifs à chaque semaine, mais... Actualité oblige. Donc, ouais. Demain, où on en est, demain, 25 % des tarifs sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada. L'aluminium, ça nous touche au Québec particulièrement. Là, c'est notre principal produit d'exportation vers les États-Unis. On en exporte pour à peu près 8,8 milliards en 2023. Et puis, on fournit 64 % de l'aluminium brut qui est utilisé par les entreprises américaines. Ça semble beaucoup. On se demande même c'est quoi la logique de... Parce que c'est clair que les entreprises américaines vont souffrir. On peut pas... Les Américains, ils ont déjà, dans le passé, il y a quelques décennies, ils produisaient beaucoup plus d'aluminium. Et puis, à un moment donné, ailleurs, on était plus efficace en Chine ou au Québec. Et puis là, ils ont commencé on avait des prix plus faibles, alors ils ont commencé à importer. Et là, on veut renverser cette tendance-là. Mais en même temps, on part pas une aluminerie comme on décide de changer d'épicerie. Là, c'est pas mal plus compliqué. Alors, on va voir ce qui va arriver. On va voir ce qui va arriver avec ça. L'industrie automobile va souffrir, notamment pour l'acier, là, puis peut-être un peu l'aluminium, là, on en utilise. Puis on sait que la chaîne d'approvisionnement de l'automobile ou la chaîne de production est fortement intégrée, là, des trois côtés de la frontière, là, Mexique, États-Unis, Canada. Donc, ils vont, eux, ça ne sera pas facile si ces tarifs-là sont maintenus. Donc, ça, c'est pour demain. Début avril, le gouvernement américain ou le président Trump a annoncé des droits réciproques. C'est quoi des tarifs réciproques? C'est que les États-Unis vont imposer les mêmes tarifs sur, par exemple, un bien donné, que ce bien-là est tarifé ou taxé lorsque les États-Unis exportent vers un autre pays. Alors, supposons que, je sais pas moi, le Brésil importe du blé américain puis que le Brésil charge un tarif de 10 % mais les États-Unis vont charger un tarif de 10 % sur le blé brésilien qui rentrerait aux États-Unis. Donc, c'est une espèce de réciprocité. Ce qui, ça peut sembler facile à dire, mais même l'implantation de ça n'est pas évidente, là, parce que définir les biens, là, ça, il y a des milliers et des milliers de biens différents, puis là, est-ce que tel bien est équivalent à tel autre? Bon, tu sais, peut-être les patates ou le blé, c'est facile, mais quand on parle de produits électroniques ou des choses comme ça, là, ça va être pas mal plus compliqué.
Ouais.
Ce qui nous touche, nous, on parle de tarifs, on a parlé un peu en fin de la semaine dernière, là, 250 à 300 % sur les produits laitiers canadiens. C'est énorme.
C'est fou, hein? C'est...
C'est ça. Bien, en même temps, je pense qu'il faut comprendre un peu l'historique, là. Nous, on a un système, comme on le sait, de gestion de l'offre. Alors, gestion de l'offre, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on donne des quotas de production à nos producteurs locaux pour produire tant de litres de lait par année. Donc, on a des quotas. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça maintient les prix. Les quotas, ça augmente. Ou la gestion de l'offre, ça augmente un peu les prix localement, mais ça maintient des revenus. C'est bon pour les agriculteurs. Là. Puis c'est tout. Je pense que les consommateurs, on paye un peu pour ça. Mais pour les agriculteurs, ça leur maintient des revenus, souvent qui sont dans des industries où les prix sont volatiles. Mais pour que ce système-là fonctionne, il faut limiter les importations, parce que si on fait augmenter un peu les prix localement, puis que les Américains ont des prix plus faibles, si on permet d'importer comme on le veut, ça va détruire notre système de gestion de l'offre ou les objectifs visés. Alors, si on fait, on limite les importations. De quelle façon c'est fait? On permet, par exemple, dans le cas du lait, là, un certain nombre de litres de lait de rentrer sans tarif en provenance des États-Unis. Mais au-delà de cette quantité-là, il y a des tarifs de l'ordre de 250 à 300 % qui sont imposés là, aux produits laitiers américains qui rentrent ici. Alors, c'est encore c'est de la réciprocité de, dans ce cas-là aussi. Là, ça semble élevé, mais il faut comprendre un peu que ce système, ça touche. Depuis longtemps, notre système de gestion de l'offre, c'est un irritant pour les Américains parce que ça met des barrières au commerce. Et puis, à chaque fois qu'on a négocié l'ALENA et puis le nouveau pacte de libre-échange qui avait été négocié en 2018 avec Trump, c'est toujours quelque chose qui est sur la table. Jusqu'à maintenant, le Canada avait réussi là, à maintenir son système.
Jusqu'à maintenant, oui.
Jusqu'à maintenant, mais les Américains n'aiment pas ça. Puis là, on va voir ce qui va se passer avec ça. Puis peut-être rapidement, il y a aussi le bois d'œuvre. Là, on a le président Trump a lancé une enquête sur le bois d'œuvre. C'est toujours un sujet qui revient là depuis des décennies. Puis c'est un peu la même chose, c'est qu'on n'a pas le même système d'attribution des droits de coupe. Aux États-Unis, ce sont des terres privées, et puis ceux qui exploitent le bois, ils payent des droits pour exploiter la terre privée. Donc, tout est privé, puis c'est le marché qui détermine combien ceux qui coupent le bois paient pour aller chercher le bois sur les terres. Nous, c'est souvent sur des terres de la couronne, donc c'est pas le marché qui détermine les prix, mais c'est le gouvernement. Alors, les Américains ou les producteurs américains, ils disent, là, c'est le gouvernement qui décide ça, puis ils ne chargent pas assez cher, puis il y a une subvention implicite. Alors, tout ça, c'est une question de chiffres, de regarder, mais on voit un peu que la différence entre les deux systèmes, là, encore une fois, c'est là que le bas blesse, là, puis c'est pourquoi on est vulnérable à ça. Puis là, j'ai pas la réponse à ça. Est-ce que les gouvernements chargent le bon prix ou effectivement il y a une subvention qui est implicite? Il faudrait faire les calculs. Mais c'est là qu'est la chicane, si vous voulez.
C'est là que le bois blesse.
Le bois, c'est ça. Le bois blesse, très bien dit.
Bon. Et la Chine nous frappe également, Michel.
Ben oui. Depuis une couple de semaines, on ne parle que des États-Unis, mais la Chine aussi. On se souviendra qu'au mois d'août dernier, dans la foulée de ce que les Américains avaient fait, le Canada avait imposé un tarif de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine. Ça incluait même les Tesla. Il y a une usine de Tesla à Shanghai. Ça incluait les véhicules Tesla parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. Pas ceux qui étaient fabriqués aux États-Unis, mais ceux qui étaient fabriqués en Chine. Donc 100%, puis 25% sur l'acier et l'aluminium produit en Chine. Puis la Chine est le plus grand producteur exportateur d'aluminium au monde. Puis l'acier aussi, ils sont très importants sur le marché. Puis la Chine n'avait rien fait, mais là, la Chine se décide à bouger. Donc le 20 mars, la Chine va frapper le Canada avec des droits de douane de 100% sur l'huile de canola, 25% sur le porc et les produits aquatiques.
Ça avait un lien avec la décision du gouvernement fédéral à l'époque de Trudeau là, concernant les automobiles?
C'est ça, 100%. On avait mis un tarif de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine.
Okay.
Puis les Chinois, ils ont des bonnes autos électriques qui ne sont pas chères. Puis encore une fois, nous, là, on se faisait un peu comme les Américains envers notre bois d'œuvre. Là, on disait, l'État joue un rôle important dans l'industrie automobile chinoise, donc il y a des subventions. Puis pour compenser ces subventions-là, pour avoir une concurrence saine, on met 100%. Les Européens, je pense, avaient mis 60%, ce qui est peut-être plus proche du chiffre, je ne sais pas, je peux aller voir. 100%, ça me semblait beaucoup, mais on suivait les Américains là-dessus. Alors là, la Chine rétorque, et donc 100% sur l'huile de canola, 25% sur le porc et les produits aquatiques. Donc on exporte beaucoup de canola canadien en Chine, là, à près de 5 milliards en valeur d'exportation. Pour le porc, ça touche beaucoup le Québec. On dit qu'on exporte pour 300 millions de dollars en Chine, puis la Chine est un gros consommateur de porc. Mais là, ça va coûter plus cher. Est-ce qu'on va en vendre autant? Ça va être à suivre. Puis la même chose pour les produits aquatiques. Là, on en exporte pour 1,3 milliard de
les
produits.
Les produits aquatiques, vous parlez de poissons, de fruits de mer?
Oui, poissons, crabes, fruits de mer, crabes, notamment le crabe, possiblement la crevette, là, donc qu'on exporte en Asie, puis en Chine, donc pour 1,3 milliard. Donc, on est attaqué de tous côtés. Là, c'est pas une bonne période pour les avocats de la mondialisation du commerce international.
Absolument pas. Et donc, la riposte canadienne commence à se concrétiser.
Oui, notamment, il y a M. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, certains appellent Capitaine Canada.
Doug Ford,
qui a banni tous les vins et alcools américains des tablettes de la SAQ locale. Mm-hmm. Et on a fait la même chose au Québec. Doug Ford, lui, est allé de l'avant. Le Québec n'a pas encore bougé là-dessus, mais il a mis une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité à 1,5 million de ménages américains dans les États du Michigan, New York et Minnesota. Et l'Ontario va chercher 400 000 ou prévoit aller chercher 400 000 $ par jour. Et puis là, ils veulent prendre cet argent-là pour aider les travailleurs qui seraient touchés par les tarifs américains. Parce que l'Ontario, là, si l'industrie automobile tousse ou un gros rhume, l'Ontario, ça va faire mal parce qu'elle est concentrée surtout en Ontario, au Canada.
Elle va attraper le rhume aussi.
Ils vont attraper un gros rhume, grosse grippe, là. Et puis le gouvernement fédéral, on en avait parlé, a annoncé des tarifs de 25% sur 30 milliards d'importations américaines qui pourraient passer à 155 milliards là, au milieu du mois d'avril là, si le gouvernement américain poursuit avec ça.
Et puis, il y aura des conséquences pour l'économie canadienne.
Ouais, il va y avoir des conséquences. Certains commencent à parler de récession. Il va y avoir aussi des conséquences sur l'économie américaine, là, mais au Canada, on parle de récession possible. Et puis, ça
on en
joue,
parle
ça
aussi aux États-Unis, hein, de récession?
Oui, puis d'inflation, là, effectivement. Puis le marché, les marchés boursiers n'aiment pas trop ce que Trump fait. Là. Hier, il y a eu des chutes brutales des indices boursiers. Ouais. Puis aujourd'hui, on est dans le rouge aussi, là, pas aussi brutalement. Mais
ça fait la une de la presse, entre autres, aujourd'hui.
Oui,
la presse plus.
C'est ça. Donc, c'est pas un bon temps pour les épargnants qui ont mis de l'argent dans les marchés financiers. Puis c'est important parce que demain, là, la Banque du Canada doit annoncer le nouveau taux directeur qui est actuellement à 3 %. Puis là, il y a un dilemme. D'une part, l'inflation semble assez résiliente. Là. Elle a baissé, mais il y a un peu de certaines pressions inflationnistes, surtout quand on regarde les hausses de salaire et tout. Donc, la Banque du Canada, ça regarde juste ça, voudrait être prudente, puis peut-être pas baisser le taux directeur parce qu'il y a encore des pressions inflationnistes. Par contre, la Banque du Canada est très consciente qu'il y a des tarifs américains qui pourraient s'en venir, puis ça va faire mal à l'économie. Donc, on va essayer de soulager un peu les entreprises. Puis si on regarde ça, on voudrait baisser les taux. Puis là, les derniers chiffres de chômage, ça s'est à peu près maintenu au Canada, on est à 6,6%, au Québec à 5,3%. Donc, la conjoncture, là, il y a comme des contradictions. Là. Il y a des choses qui disent on devrait augmenter les taux. Les tarifs nous disent, bien là, si on s'en va en récession, il faut peut-être mieux réagir dès maintenant puis baisser le taux directeur. Donc, ça va être assez intéressant de suivre ce que la Banque du Canada va faire. Les analystes s'attendent à une légère baisse de un quart de point. Là. Donc, le taux directeur pourrait baisser à 2,75%. L'annonce va être faite demain.
Demain. Alors, on va suivre ça.
C'est à suivre, là, effectivement, là, parce que des fois, c'est assez clair ce qu'elle va faire, mais là, c'est vraiment...
On est dans le flou.
On est un peu dans le flou, puis mais on va voir ce que le gouverneur de la banque va faire demain.
Bien, merci pour votre chronique limpide, Michel Poitevin. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est limpide, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.